quartier de vie. Une émission de résonance sonore proposée par Agnès Gontier. Quartier de vie vous emmène à la rencontre de Majid Cherfi à Bagatelle, mais aussi à la rencontre de jeunes filles et d'habitants du quartier se posant des questions autour de leur double culture. Après les attentats de Charlie Hebdo, un projet autour de la liberté d'expression est né dans le quartier. Débats, projections ont eu lieu sous le thème également du vivre ensemble. En mai dernier, c'est une rencontre avec Majid Cherfi autour de son livre « Ma part de Gaulois » sorti chez Actes Sud, qui a été organisé à la bibliothèque municipale de Bagatelle à Toulouse. Une grande réussite puisque plus de 150 personnes étaient présentes. L'occasion pour toutes les structures participantes au projet de rendre hommage à Majid Cherfi à travers des lectures et des mises en scène de son texte. Occasion également de parler sans tabou du racisme, de la discrimination, de la crise identitaire partagée par un grand nombre de personnes issues de l'immigration. Majid parle d'une schizophrénie permanente entre ses origines arabes et son rattachement à la France. Il dénonce l'exception française qui, selon lui, c'est d'être français et de devoir le devenir, du moins de devoir le prouver. Pour une république fraternelle, il souhaiterait une société française qui assume sa multitude. Une république cosmopolite qui parlerait de l'histoire des Français issus de l'immigration et pas seulement de ses ancêtres gaulois.
C'est une première. Je crois que c'est la première fois qu'on a tant de monde ici à la bibliothèque. La présence est très forte ce soir. Parce qu'elle nous montre au moins une chose, c'est qu'une bibliothèque, c'est un lieu de partage, d'échange. Voilà. Et ce soir, on concrétise un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois. Voilà. Depuis 2 ans, on avait des questions et besoin de parler, on avait besoin de mettre du sens sur des mots. Et donc, c'est un peu pour ça que vous êtes tous là. Et vraiment, on est très, très, très contents de vous réunir ce soir et on est aussi très heureux de rencontrer et de retrouver Majid.
Bravo à tout le monde pour la participation à ce bon moment. Je suis sûr que vous allez passer avec nous, avec Majid Cherfi qui nous rejoint dans quelques minutes. Mais Majid, il y a plein de choses qui vont arriver maintenant, qui sont centrées autour de toi, de ton œuvre, de ta vie. Je vais peut-être demander aux premiers élèves et aux participants du centre social, des élèves de CME1, de nous présenter leur première prestation, avec Myriam, je crois, qui arrive et qui va nous parler de tout ça.
Toujours se demander pourquoi quelqu'un a des problèmes dans la vie. C'est toujours dangereux de juger une personne à son apparence. Regarde-nous, les Arabes, on est souvent jugés à l'apparence.
Oui, c'est vrai. Les Français disent qu'on est des voleurs.
Tu vois, ils se trompent. Toi et moi, on n'a jamais volé. Toujours penser à réfléchir.
T'as compris?
Toute ta clique de bougnoul là, de Marocain, je sais pas quoi, vous allez retourner dans votre pays ou Maghreb, je sais pas quoi.
Eh, tu sais où tu es ici, toi?
Mais je suis en France, pourquoi?
Bah, en fait, c'est plus le cas. Parce que maintenant, cette ville qu'on appelle Toulouse et ici Bagatelle, c'est devenu Bagdad, parce que c'est cet état de merde qui est tous venus ici.
Est-ce que parfois tu nous as vu tuer? Est-ce que tu nous as vu parfois voler? Est-ce que tu nous vois parfois en train de faire les racailles dans les cités, quoi que ce soit? Est-ce que tu nous vois en train de brûler des voitures? Faut que tu sortes un peu de tes rêves, on est dans la réalité.
Sauf que tout ça, on le voit partout, sur les infos, TF1, Internet, partout.
Les TF1, tout ça, ils disent que de la merde. Par exemple, moi, je fais 5 ans d'études, on me prend pas parce que je m'appelle Youssef. Et tout ça normal? Et tu crois qu'on va s'excuser parce qu'on est arabe alors qu'on respecte l'état public? C'est ça que tu veux?
Mais bien sûr que oui.
Mais entendu. Oui, il faut des excuses, quoi. Eh bien, pardon d'être arabe. Pardon de faire le ramadan.
Pardon d'avoir fait ton propre monnaie.
Majid Cherfi.
D'une certaine façon, on est tous immigrés de quelque chose. On est tous l'étranger de quelqu'un. On est tous rejetés par un autre. Et on est tous un immigré qui, quelque part, se retrouve isolé par les autres, etc. Et donc cette histoire que je raconte est, au fond, l'histoire de l'humanité qui cherche la fraternité sans la trouver. Et donc, on fait des lois, on fait des règlements, on essaie. Et tout cela, on est à la quête de ce truc qu'on appelle la fraternité. Et depuis des millénaires, les hommes se font la guerre, ou pour des bonnes, ou pour de mauvaises raisons. Et là, par exemple, on a Marine Le Pen au second tour des présidentielles. Et on se dit, bon, mais la fraternité, on ne l'a pas trouvée. Et donc, écrire pour moi, c'est raconter comment nous essayons tous d'obtenir cette fraternité, sans la trouver. Et en ce qui me concerne, c'est parce que ma façon, moi, c'était d'être fils d'Algérien et de me dire, est-ce que je ne suis pas devenu trop français? Et donc, c'est encore de consommation de Doliprane, oui. Pas assez français, trop français. Et donc, on va et vient en se disant, mais on est où, puisque nous ne leur convenons jamais aux Français. Et donc, c'est cette histoire d'impossibilité donc, qui peut s'écrire comme ça.
Alors, pourquoi avoir choisi Majid Cherfi et son livre ?
Donc, Olivia, je suis sur la coordination de l'accompagnement à la scolarité sur le centre social de Bagatelle. Alors, moi, le projet, je ne suis pas l'initiative de ce projet du tout, c'est la bibliothèque Saint-Exupéry. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y avait une connivence entre les origines de Majid Cherfi, qui a passé beaucoup de temps à Toulouse, enfin, qui a une identité toulousaine pour la peine, et qui connaît certainement les professionnels de la bibliothèque, je pense, qui avait une facilité de rencontre, et aborder un projet sur l'identité, sur la liberté d'expression, puisque ça vous l'avez lu. Ça parle vraiment de la vie chaotique d'un immigré sur les quartiers prioritaires toulousains et la difficulté à s'émanciper dans l'expression, dans la scolarité, et pouvoir aller plus loin, c'était... Voilà.
J'aimais même Vercingétorix, notre ancêtre glorieux, qui bouta enfin presque le Romain, cet enfoiré qui veut détruire notre petit village de Bretagne. Et je souffrais de ne pas faire partie de cette famille qui parle à Jésus, fête Pâques et fait des crêpes pour Mardi Gras. Gras, oh, que le mot est doux à mon oreille. Dites-moi-le une fois comme ça, gras.
Ah,
ça fait du bien. Alors nous, le jour de Noël, c'était aux Isards, c'était rue Raphaël, ça s'appelait. Notre maison à nous ressemblait à la hutte sous l'ouragan. Il y sifflait un vent de hyène alentour. Notre maison donnait des airs de cachot à la Louis XI. Un genre bien étroit, juste insupportable, un habité comme décrit par Zola, un gourbi de Gervaise. Oui, j'en vois le boulet. Et c'était du Victor Hugo, pur sucre, que lui-même s'en serait mordu les doigts de ne pas avoir décrit. Plus miséreux dans les misérables, avec aussi en prime du Jean Valjean, que moi j'ai appelé Mohamed, et Cosette Yamina. Et l'entendre dire le Victor, les Arabes, mais c'est bien sûr, là la vraie misère. Et ces gens-là, ils sont pauvres au possible, et dans leur religion, il n'y a pas un traîneau consolateur pour égayer tous ces petits-enfants. Non, tous ces jouets, tous ces cadeaux, toute cette chantilly, c'est pas pour nous. Nous, c'est la merguez et le couscous, et les jours de fête, le grabe, ce sera celui du mouton. Cher. Et puis, oui, en guise de champagne, du Fanta. Alors je finissais, moi, souvent accroupi devant tous ceux de ma famille, tous ces prénoms qui finissent en id. Yazid, Farid, Hamid, Fahid, Saïd, Rachid, il m'en manque un. Oui, Rachid, oui, c'est ça, c'est lui qui manque.
Et donc là, faire lire des passages à quatre jeunes filles, c'est l'idée de travailler sur le thème de l'identité, des racines
Alors en fait, on a un petit peu hésité, puisque pour cette petite lecture d'extrait, il y a la compagnie Jeux de Mômes, qui est une association qui est très présente sur le quartier et qui travaille l'expression, l'activité théâtrale avec les jeunes, plutôt adolescents mais aussi petits, par l'intermédiaire aussi de l'accompagnement à la scolarité sur tout le quartier. Et donc cet intervenant, Frédéric Nicolo, et moi-même, on n'était pas tout à fait certains de pouvoir mettre à profit le texte, puisqu'il est quand même assez cru. Et ma collègue, en fait, Marie-Claire, elle avait vraiment envie de valoriser les petites, parce que, voilà, comme vous avez pu remarquer, elles n'ont pas la langue dans leur poche. Des trucs à raconter, elles en ont plein. Et puis certaines d'entre elles sont de grandes lectrices. Elles lisent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le discours de ma collègue Marie-Claire était de dire pourquoi laisser la parole seulement aux adultes ou aux adolescents et rester dans le tabou aussi pour les enfants.
Pourquoi vous le laissez entrer? Ma mère, elle dit que c'est un voyou, que chez eux on ne fait jamais la toilette et qu'ils sont mauvais.
Ça m'a sidéré. J'hésitais entre une paire de gifles et la maniaque pédagogique qui veut qu'on soit patient, qu'on explique et qu'on recommence s'il le faut.
Et j'ajoute à l'explication, mettre les formes et ne pas réduire sa mère à une légère d'un autre âge.
C'est pas bien ce que tu dis, hein. C'est vrai qu'il fait des bêtises, mais tout le monde en fait. Et pour le reste, bah,
Pour le reste, c'est une sorte très pauvre. Et pour le reste,
alors ça coupe l'électricité. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu...
Marie-Claire, centre social de Bagatelle.
Prise de conscience, oui, de leur place, de leur culture aussi, à travers ce livre, à travers le témoignage de Magie de Cherfi, qui en fait est très proche de ce qu'elles vivent, de ce que leurs parents vivent aussi sur le quartier. Et une appropriation de l'écrit, et de la signification des mots, de ce que ça voulait dire, de ce que ça voulait dire et de ce qu'a voulu faire passer Magie de Cherfi à travers ces passages que l'on a travaillés.
C'est des pré-ados, alors peut-être qu'elles ne se sont pas encore posées cette question de l'identité aussi forte que Magie de Cherfi, ou peut-être que ces questions-là vont venir plus tard.
Je pense qu'elles vont venir plus tard, effectivement, parce qu'elles n'avaient pas conscience, non, de la signification de certains mots, parce que Magie de Cherfi utilise quand même une large terminologie, très large, même si c'est une terminologie parfois très, comment dire, très familière. Elles n'avaient pas conscience, elles utilisent, je dis elles, parce que ce sont des jeunes, petites jeunes filles à qui on s'adresse, mais elles n'avaient pas conscience spécialement que ces mots pouvaient les concerner, et de la définition qu'elles avaient et qui les impactait d'une certaine façon, qui les concernait d'une certaine manière, de plus ou moins près. Voilà. Mais je pense que de toute façon, elles y auraient eu accès un petit peu plus tard dans leur vie, dans leur développement d'adolescente, je pense.
Bonjour, je m'appelle Myriam et j'habite à Bagatelle, au 19 rue du Nivernais, j'ai 9 ans.
Je m'appelle Nassima.
Ça parle, qu'est-ce qui est Magie de Cherfi va choisir comme religion, franco-musulman, franco-toulousain, franco-kabyle, etc., etc.
C'est la religion ?
Oui, c'est plein de religions toulousaines.
C'est pas plutôt son identité dont il veut parler, sa culture ?
Oui, il veut parler de ça et après il veut choisir qu'est-ce qu'il veut être vraiment.
D'accord. Donc tu vois, franco-toulousain, c'est pas vraiment une religion, non, c'est plutôt une identité. Toi, par exemple, tu t'identifies à quoi ?
Toulousaine.
Tu parles plusieurs langues ou pas ?
Arabe et je connais un tout petit peu l'anglais et l'espagnol.
Et à la maison, tu parles quelle langue ? Français ou arabe ?
Les deux, français et arabe.
Moi, c'est pareil, je suis musulmane et chez moi, je parle français. La plupart, c'est français. Mais vu que des fois, y a des invités, et la plupart des invités, c'est algériens, on parle algérien.
Toi, tu es née en France ou tu es née en Algérie ?
Je suis française. Je suis née en France.
Et tes parents ?
Mes parents sont algériens, sont en Algérie.
Ce qui parle, Magie de Cherfi, c'est, on peut dire, de plusieurs identités, non ? Est-ce que vous ressentez la même chose ?
Oui, oui. Et
Tu te sens quoi ? Française, algérienne, les deux ?
Je me sens plus algérienne, mais il y a un côté français aussi. Il y a un côté française.
Qu'est-ce qui fait que tu te sens algérienne ?
Mes parents, déjà, parce qu'ils sont algériens. Et mes paroles, parce que presque tout le temps, on a des invités, alors presque tout le temps, je parle arabe.
Et le côté française, alors, ça serait quoi ?
Ma naissance et ma vie. J'habite en France. Alors, c'est voilà quoi. Ce qui marque que je suis française.
Et toi, tes parents, ils sont français ou ils sont nés dans un autre pays ?
Ma mère est née en Algérie et mon père, il est né en France, mais il est d'origine algérienne. Et moi, je suis née en France.
Et tu te sens plus quoi, algérienne ou française ?
Plus algérienne, parce que je pars beaucoup en Algérie. Et moi, c'est pour la famille, les vacances. Et la France, pour moi, c'est ma vie entière. Et la France, c'est mon pays.
Donc tu te sens finalement les deux ? Donc du coup, ça serait franco-algérienne, c'est comme ça qu'on dirait ?
Pour moi, oui.
Je m'appelle Selma, j'ai 9 ans. Je suis née en Algérie, toute ma famille à part mes deux petits frères. Et je me sens plus algérienne parce que je suis née là-bas. Je parle de cette langue et nous à la maison on parle pas français à part avec mes frères.
Et qu'est-ce qui te rattache à la France alors ?
Mes amis. J'ai des amis qui sont pas vraiment algériennes mais je les aime beaucoup.
Je m'appelle Malika Fuera, j'habite à Bagatelle.
Et toi, est-ce qu'on parle plusieurs langues à la maison ?
Non, seulement le français, parce que je n'ai pas eu l'occasion de parler arabe.
Parce que tes parents sont d'origine arabe ?
Oui, mais à chaque fois, ils essayent de me parler arabe, mais je ne comprends rien à chaque fois. Et voilà, je n'ai pas eu l'occasion.
Ils sont de quel pays d'origine ?
Algérien.
Et tu regrettes de ne pas pouvoir parler l'arabe ?
Des fois, oui, des fois, non.
Pourquoi ils n'ont pas voulu t'apprendre quand tu étais petite, tu le sais ?
Si, ils ont voulu, mais ils n'arrivaient pas.
C'était trop dur de parler français et arabe à la maison, c'est ça ?
Ouais.
Et alors, tu te sens plus française ou plus algérienne ?
Un côté, je me dis, mon père et ma mère, ils sont algériens, donc un peu algériens. Mais plus française, parce que je suis née en France.
En fait, la question, c'est justement comment on vit d'une double culture, parce que ça peut être une force, comme ça peut être aussi difficile à surmonter, dans le sens où, où parfois on veut se fondre dans la masse, et avoir qu'une seule culture, c'est parfois plus facile à avoir des points de repère. Et je pense que dans le livre de Majid Cherfi, c'est un petit peu cette longue errance.
Ouais, tout à fait. Et du coup, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a aussi travaillé sur d'autres séances avec les parents par le biais de l'accompagnement à la scolarité, avec les écoles, etc., sur justement la double culture, le plurilinguisme, comment valoriser sa culture d'origine, sa langue et ne pas faire barrage à sa propre langue d'origine. Parce que justement, c'est ce qui va faire barrage, c'est ça, de mettre de côté, afin de distinguer affectif, origine, histoire et langue de l'école, langue de l'apprentissage. Donc on a travaillé sur tout ça, avec les familles surtout. Et par cet intermédiaire, l'intermédiaire du livre, on le travaille aussi.
La question d'identité, c'est très, très difficile. Alors, il faut vraiment bien choisir, il faut bien répondre aux enfants, parce que ça reste enregistré quelque part dans leur tête. On est français, vous êtes nés français, des origines algériennes ou maghrébins, ou je ne sais pas, il faut lier les deux. Et ça reste gravé dans la tête des enfants. Si on arrive à faire ça dès le début, dès leur jeune âge, ça va rester gravé dans leur tête. On n'est pas que des Algériens, on n'est pas que des Marocains, on n'est pas que des Tunisiens. On est français d'abord, né français d'abord, après les vraies origines, quoi. Il faut toujours répéter ça aux enfants. Et je pense qu'avec ça, ils vont y arriver. Il ne faut pas préférer l'un ou l'autre. Pas français. Il ne faut pas préférer l'un à l'autre. Il faut réussir à faire l'équilibre. Ça, c'est un plus pour nos enfants, pour qu'ils avancent bien.
Qu'est-ce que vous donnez comme conseil, justement, pour dépasser la question on est maghrébin, on est français. Justement, quand vous dites ma part de Gaulois, vous avez trouvé,
ma part
comme
de
vous
Gaulois,
dites, un
c'est
certain...
d'être kabyle, toulousain, français, pyrénéen, arabe. C'est ça pour moi être gaulois. Un gaulois, c'est un mélange. Alors pour Sarkozy, un gaulois, c'est un blanc catholique et éternel. On n'a pas la même idée.
Pour les jeunes, souvent, ils sont en conflit, comme vous l'avez été quand vous étiez jeune, sur la question de l'identité, parce que vous avez des différentes origines.
On est en conflit.
Donc la question, c'est comment surpasser ce conflit. Aujourd'hui, vous l'avez surpassé. Vous ne l'avez pas surpassé aujourd'hui,
non,
le conflit, quand vous dites justement vous êtes multiples. Est-ce que ce n'est pas ça, justement, la solution ?
Il y a trois jours, Macron parler de Jeanne d'Arc. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ?
Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous dites justement que vous êtes multiple, est-ce que c'est pas ça de dire à la jeunesse
parce que multiple, c'est un effort, un travail colossal. On n'a pas tous les moyens d'être multiples. Quand vous êtes un fils de chômeur, que vous vivez dans la misère, qui n'a pas les moyens de vous élever, vous ne pouvez pas lui demander d'être multiple. Il est dans une société, la nôtre, qui lui dit, t'as tes papiers français, mais t'es pas chez toi, ok ? Comment il s'en sort ? Les jeunes qui ont 18 ans, là, aujourd'hui, autour de nous, ils savent bien qu'ils sont pas chez eux. Ils savent qu'ils sont pas chez eux à cause de leur nom, de leur origine, de leur couleur de leur peau.
Oui, mais ce qu'on peut
regretter, c'est pas, est-ce qu'il faut pas non plus s'approprier les choses
chez eux.
Est-ce que c'est pas non plus...
Ah oui, ça a des regrets, on peut en avoir. Eh oui, exactement.
Eh bien, voilà.
De quoi et de quoi ?
Qu'on leur ait pas dit qu'ils étaient chez eux. C'est
en
ça.
Fait, il faut qu'on insiste beaucoup pour eux.
Oui.
Pour dire.
Donc ça va passer par quoi ça ?
Eh bien, il y a des élus de gauche et de droite depuis 30 ans Il raconte une France blanche, éternelle et catholique.
Et masculine aussi, on peut dire.
Et masculine.
Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus pour
oui,
les.
Oui, je suis d'accord.
À part une, on aurait oublié qu'elle ne soit pas là.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tous ces hommes de gauche et de droite, les élus, les élites, nous disent que la France, c'est blanc, éternel et catholique. Et s'il a envie d'être musulman, il fait la scission. Et donc, ils font la scission aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les filles portent des trucs pour se couvrir ? On cherche un refuge, puisqu'en France, nous ne l'avons pas.
Refuge, pas forcément aussi.
Pas forcément, mais pour beaucoup, c'est un refuge, qu'ils soient religieux ou pas. Je le porte aussi parce que je ne suis pas protégé par un truc qu'ils appellent la République. Pourquoi ils le porteraient ?
Ben, je ne sais pas, parce que elles peuvent aussi, par religion aussi, penser qu'elles veulent le porter. Non ?
Ça peut être par religion, ce n'est pas la majorité des cas, selon moi. C'est une façon de ne pas en être.
De quoi ? La République ?
Ou la République ou la société blanche, c'est comme on veut.
Donc vous
c'est...
voyez vraiment les choses divisées, quoi.
Pour moi,
moi, je suis optimiste.
Après, tu portes un optimisme que j'entends.
Oui, voilà, c'est ça.
Tu es optimiste, mais c'est bien d'être optimiste. Mais il y a un moment où tu te dis, mais.
Non, mais si vous n'êtes pas optimiste, comment vous faites pour vivre tous les jours ? Non,
parce que moi, je suis obligé d'y croire.
Alors, je comprends pas, vous êtes un peu optimiste alors ?
Oui, parce que j'ai des mômes et qu'il faut bien qu'ils aient un horizon.
D'accord.
Mais moi, mes mômes, je leur ai jamais dit qu'ils étaient français. Je leur ai dit, avec ton prénom, gare, un jour ça va tomber. Mmh. Et c'est tombé.
Mmh. Ben, moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est vrai que nous, on se pose des questions parce que nos grands-parents étaient là, nos parents, moi, donc ça fait quand même 3 générations, puis maintenant la 4e, et même cette 4e, elle a des fois des enfants, donc ça fait une 5e génération, on se sent pas français. Alors, quand est-ce qu'on va se sentir français ? Après, nous, on a la différence de la religion, déjà, qui diffère d'un français de souche, on va dire, entre guillemets. Et aussi, le nom et le prénom. Souvent, quand il arrive, il dit « Ouais, je suis français, tu t'appelles comment ?» Elle va s'appeler, par exemple, Aïcha, Ben, je ne sais pas quoi, excusez-moi. Toi, tu es française. Voilà. C'est de suite le mot qui est lâché, quoi. C'est triste.
Et votre fille qui ne se sent pas française, donc plus algérienne, c'est ça ?
Oui, parce qu'elle dit par exemple, ouais, tu sais, maman, par exemple, je sais pas moi, dans mon travail, eh bien, il y avait une arabe comme moi. Elle va pas dire une algérienne et une française comme moi. Ça va plus la tenter de dire arabe comme moi que française comme moi. C'est un mal-être, on peut pas le dire parce que souvent on nous le reproche. Déjà quand il y a une dispute entre quelqu'un qui est d'origine maghrébine, par exemple, et un français, bon, je vais redire ça encore, français blanc ou français de souche, ben, qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, si t'es pas content, rentre chez toi. Mais chez moi, c'est ici. Moi, j'ai rien là-bas, j'ai même pas de maison, je connais pas l'Algérie. Moi, j'ai tout connu ici, et pourtant, je suis venue, j'avais 2 ans. C'est-à-dire, j'étais déjà née. Et mon père était là en 52, il avait 17 ans.
Vous sentez française ?
Moi, je me sens française, mais j'ai quand même le cœur algérien aussi, parce que j'ai quand même de la famille là-bas. Donc, quand je vais là-bas, je repars, on se ressource, il y a les racines. Il y a la tombe de ma mère, par exemple, maintenant la tombe de mon père, il y a la famille. Donc, il manque toujours quelque chose. Donc, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Mais après, c'est vrai que je respecte la France, je suis en France. Je remercie la France, d'ailleurs, parce que j'y suis bien. Mais je ne connais rien de l'Algérie. Je ne sais pas, il y a un petit manque, mais vraiment minime par rapport à la France.
Et votre fille, à votre avis, pourquoi elle ne se sent pas française ? Qu'est-ce qui cloche ?
Mais parce qu'on lui reproche tout le temps. Déjà, de par son nom, son prénom et son physique. Elle n'est pas typée, mais quand même. Donc souvent, on va lui dire, ouais, vous les Arabes, on va lui parler comme ça, par exemple. Ou alors on va faire on va insulter. On va pas loin. Avec tous les attentats qu'il y a eu, pour eux, c'est les Arabes en général. Alors que nous, la religion, moi, mon père m'a appris la religion, pieuse, propre, tolérante. Je veux dire, mon père, il m'a jamais appris à taper sur l'autre parce qu'il n'est pas comme moi ou parce qu'il ne croit pas comme moi. Au contraire. Après, lui, comme je disais à Magid, il nous a appris la religion musulmane parce que c'est celle qu'il a appris lui. Et on était habitués à cet état d'esprit à la maison. Mais après, dehors, moi, vous voyez, je ne porte pas le voile.
Et du coup, pour vous, quelles seraient les solutions en fait, pour dépasser ça ? Vous êtes défaitiste ou plutôt optimiste ?
Non, après, quand je vois que quand même, par exemple, rien que là, pour les élections, quand je vois que ce n'est pas Marine qui a gagné, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre ce fascisme, quoi. Donc c'est qu'il y a quand même des gens de notre côté malgré tout. Et après, bon, je le dis aussi, c'est peut-être vexant, mais je ne pense pas qu'il y ait de français pur aujourd'hui. C'est beaucoup de mixité, il y a beaucoup de mélange. Et donc je pense qu'à la longue, au bout d'un certain nombre d'années, il n'y aura plus de français pur. Il y aura des gens, le père sera algérien, la mère sera espagnole, voilà.
De toute façon, est-ce que français pur, est-ce que ça existe ? C'est pas sûr, avec les invasions barbares à l'époque, etc. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, c'est que... Ça, c'est une construction politique, mais... Mais bon, il faut en demander à...
Dans le Front National, pour eux, c'est le français pur. Et c'est quand on regarde leurs origines, il y en avait un qui avait, en sortant du meeting de Marine Le Pen, il lui a dit, vous êtes français, vous avez l'air un peu le teint allé, quoi, et bronzé. Il a dit, non, moi, je ne suis pas un bougnou. Alors, déjà, les insultes. Et après, il a commencé à dire, de par mon père, je crois qu'il avait dit allemand-polonais, et de par ma mère, je suis... En fait, il avait des origines de partout, et il se disait français pur, donc c'était rigolo. Et en fait, c'est le blanc, entre guillemets. Parce que lui, il est plus clair que le maghrébin qui va être typé, être bronzé, va être cheveux bouclés. Parce que c'est ça aussi qui fait la différence. Après, il n'y a pas que des bouclés et des bronzés chez nous, hein. C'est ça.
Non, mais moi, je dis que quand une personne en France s'intègre, qu'elle soit d'origine noire, blanche, marron, jaune, de n'importe quelle origine, on voit les compétences dans les écoles, on remarque qu'un enfant a des bonnes notes, a soif de littérature, a soif de français, a soif, il a envie de cette connaissance, il faut les aider. Parce que j'ai remarqué que la plupart des quartiers, des banlieues, certains enfants qui ont des grandes capacités, des grandes compétences, et on ne les remarque pas, on ne les voit pas.
Ça vous a plu ce soir ?
Oui, vraiment. Et puis, j'ai Nessima qui, dès le début, elle était intéressée par ça. Elle a commencé à écrire elle-même. Elle pliait les papiers, les feuilles, et elle mettait les agrafés et commençait à écrire. Donc, ça a été un plaisir pour elle. Elle a pris un plaisir fou.
Ça vous a fait plaisir de la voir, justement, sur scène ?
Sur scène, ça lui a donné confiance en elle, si vous voulez, à parler devant comme ça, devant des gens. Ça a été, je ne sais pas, peut-être c'est un déclic pour elle, ouais. C'était un plaisir. Ouais.
Et sur le débat qu'il y a eu un petit peu entre les différentes cultures qu'il peut y avoir en France et on va dire les partages qu'il peut y avoir entre les origines, qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Moi, personnellement, je pense que c'est dans les deux sens, dans les deux côtés, ça a été un bourrage de crâne. Autant que les Maghrébins ou les étrangers, on va dire, ne côtoient pas, nous aiment pas, nous côtoient pas, nous aiment pas. Et l'inverse, c'est les Français aussi, ils ne côtoient pas, ils nous aiment pas, nous côtoient pas, nous aiment pas. Et du coup, ça nourrit la haine entre les deux populations, quoi. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas autrement. C'est ça qui a fait que les gens, ils se détestaient entre eux.
Aujourd'hui, c'est pas pareil ?
Non, je pense pas. Je pense pas que c'est pas pareil. Ouais. Vu que moi, ça fait pas très longtemps que je suis en France. Ça fait, on va dire, 12 ans, 13 ans que je suis là. Je pense que c'est pas pareil. Non.
Qu'est-ce qui a changé selon vous ? Qu'est-ce que vous avez vu changer ?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses. La façon de voir les choses, ça a changé. C'est pas la même chose. Pas la même chose. À force, les gens de dire ne côtoie pas, ne se mélange pas, la religion, eux, ça, ceci, cela, ça fait que les gens, ils s'entendaient plus entre eux. Un temps, ça a changé. En mieux, non. En mieux, non. Je pense pas. Je pense pas. En mieux, non.
Ah, vous pensez que c'est en pire ?
Oui. Il faut, comme ils sont en train de faire, là, il faut la mixité. Il faut détruire, il faut la mixité. Il ne faut pas encastrer les Arabes ou les étrangers tout seuls et les quartiers de Français tout seuls. Il faut faire de la mixité. Il faut plus. Il faut plus pour que ça change. Vraiment. Et vraiment, il faut plus pour que ça change. Et je pense que ça va venir. Hein. Ça viendra un jour ou l'autre. Hein.
Si vous voulez, il y a une espèce de suspicion sur les gens issus d'une immigration maghrébine, africaine. Il y a une suspicion comme si... on n'était pas soluble dans la France, c'est comme si on ne pouvait pas aimer la France. Mais si, on peut être musulman et adorer la France, c'est-à-dire sur ses principes républicains de liberté, d'égalité. Mais il y a une suspicion. Et donc, voilà, la difficulté est là, je dirais presque dans le regard de l'autre, finalement. Et on n'est jamais assez français dans le regard de l'autre. Et le problème est là. Quand on croise un noir dans une rue française, il n'est jamais français dans l'inconscient collectif. C'est un étranger, un immigré, un sans-papier. Et donc, j'avais envie de redire, écoutez, chers Français, nous vous aimons plus que tout. Parce qu'on ne le dit pas assez de toute façon. Et pour établir une société française qui soit comme elle est là, Black Blamber en quelque sorte.
Et bienveillante.
Et que la France, c'est ça.
Et bienveillante, comme tu disais.
Bienveillante, bien sûr. C'est la fraternité.
Ouais.
Et je dirais même plus que la fraternité, c'est la modernité.
Ouais.
Parce que le monde de demain, il se fait de ce brassage. Et ne pas aller dans ce sens-là, c'est refuser d'avancer.
Et ce brassage, il existe depuis des siècles en France, de toute façon. Donc, tu le disais mais, tout à l'heure, mais...
Il existe dans la,
différemment, mais...
dans la difficulté. Il se fait dans la difficulté. Il n'est pas accompagné. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est... Moi, j'ai regardé le drapeau bleu, blanc, rouge, il n'y a pas longtemps. Je disais, tiens, vert, jaune, rouge sur le côté, pour apporter une africanité. Et je cherche des symboles pour que tous ces mômes venus des quatre coins du monde se disent, tiens, j'appartiens aussi, mon histoire appartient aussi à cette France de demain.
Le Gaulois de la banlieue. Ses parents ont quitté leur beau pays, la France les a accueillis ici, dans les quartiers nord anéantis, où étudier vous sauve la vie, où les souvenirs d'osées amères de chère fille remontent à la surface de son esprit. Pour oublier la brutalité de la banlieue, où il ne fait pas bon d'être écrivain heureux. De la castagne pour un mot gentil, jouer des deux côtés à un prix. Soutien moral aux filles cadenassées, soutien scolaire aux jeunes écoliers. Puis il se lance dans la musique, avec Zelda, c'est idyllique. Il est en pleine crise, il faut tomber la chemise. Bon parolier, très bonne chanson, reprise en boucle à l'unisson. Il combat le racisme en politique, haut et fort, il le revendique. Pression et amour d'une merveilleuse mère, réussite et respect, elle en est fière. Sa notoriété n'étant pas contestée, Madji Cherfi a sa part de Gaulois méritée. C'est un être bien aimé, je voudrais le saluer.
Quartier de vie, une émission de Résonance Sonore. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.